Salut les élèves de la 4e B du collège Louis Pasteur à Lavelenay. Ça nous fait très plaisir d'avoir eu vos questions. C'est des très bonnes questions, on va essayer d'y répondre le mieux qu'on peut. Je suis avec Clément Plagne, qui est mon commandant de bord de l'équipage 240 de la MDRS. Et moi, je m'appelle Julie Lévita et je suis l'agent santé-sécurité de l'équipage. Du coup, votre première question, et c'est Clément qui va y répondre, c'est comment ils font pour avoir ni chaud ni froid les astronautes?
Donc voilà, donc du coup, pendant notre mission, nous, dans la station de recherche, effectivement, actuellement, on est dans le désert, ce qui fait qu'il fait très froid pendant la nuit, il fait presque moins 15 pendant la nuit, et il y a des gros sauts de température parce que le jour, il fait presque plus 10. Donc pour s'assurer qu'on peut vivre confortablement et comme on est dans une petite maison normale, il y a beaucoup de systèmes donc, pour isoler thermiquement la station, s'assurer que la chaleur elle sort pas trop et également pour nous tenir bien au chaud. Donc il y a beaucoup de systèmes comme de la climatisation dans une maison normale qui s'assure à ce qu'on reste bien confortable.
Et par exemple Thomas Pesquet, quand il était dans la station spatiale internationale dans l'espace, tu penses qu'il faisait comment?
Et ben là aussi, surtout pour lui parce que du coup en plus de, il n'était pas sur Mars, il était vraiment dans le vide au-dessus de la Terre. Bah pour lui, du coup, c'était encore plus important. Hein. Dans la station internationale, les journées font 1h30, donc ils ont 45 minutes de jour où il fait très très chaud parce que le soleil tape, et 45 minutes de nuit où il fait très très froid parce qu'il n'y a absolument rien pour les aider. Donc du coup, c'est très très important. Et dans la station spatiale internationale, ils ont des super systèmes pour maintenir la température et pour bien gérer l'écoulement de l'air pour qu'on soit sûr qu'ils puissent vivre confortablement. Voilà. Du coup, une question aussi qu'on a eue, c'est une question très intéressante, qui demande si ça nous dégoûte de se dire que dans notre tête, on boit de l'ancienne transpiration. Donc, Julie, tu veux peut-être parler parce que tu es responsable d'une mission pour le recyclage de l'eau.
Ok. Alors, il faut savoir que, par exemple, Thomas Pesquet, dans la Station Spatiale Internationale, techniquement, il boit de l'eau qui était son ancienne transpiration. Dans cette station de l'espace, il y a des systèmes extrêmement développés qui permettent de collecter la transpiration. Il faut savoir que quand il n'y a pas de gravité, les molécules d'eau, dont les molécules de transpiration qui se dégagent de notre corps, en fait, elles flottent dans l'air, si vous voulez, enfin, du coup, dans l'air de la station, ce qui est beaucoup plus facile pour les récupérer. Elles rentrent dans des systèmes de recyclage qui sont hyper développés. Mais en fait, si on y réfléchit, nous aussi, quand on boit de l'eau sur Terre, on boit un petit peu de l'ancienne transpiration, puisque finalement, l'eau qu'on utilise, elle passe ensuite quand elle va dans les égouts, elle va ensuite aller dans des stations d'épuration, les stations d'épuration vont transformer l'eau sale en eau propre, et ça va retourner ensuite dans les rivières, etc., pour la reminéraliser. En fait, nous aussi, vous aussi, sur Terre, vous buvez de l'ancienne transpiration. Finalement, dans la Station Spatiale Internationale, une station d'épuration une mini station d'épuration qu'il y a dans la station. Voilà. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on ne boit pas notre ancienne transpiration, on recycle seulement l'eau qui vient de nos douches, donc il y a un peu de transpiration dans ça, effectivement, mais on ne va pas du tout la boire parce qu'on n'a pas aujourd'hui développé les systèmes qui le permettent, mais en fait, il suffit de faire un petit peu de chimie, une réaction qui va enlever le savon et les molécules qui contiennent toute la saleté et le savon de l'eau. Et on va récupérer cette eau propre et on va la réutiliser pour se doucher. Mais on ne va pas la boire parce que c'est un petit peu trop risqué. Voilà.
Ok, merci beaucoup. D'accord, Julie. Et du coup, une autre question qui nous a été posée, c'est une question pour savoir si on mange avant de sortir de notre habitat.
Alors, en fait, il faut savoir que les sorties qu'on fait, nous, dans la station, elles peuvent durer de 2 à 3 heures, voire 3h30, 4 heures. Donc, c'est des très longues sorties. On a un scaphandre sur la tête. En simulation de vie martienne, on n'est pas censé passer la main sous le scaphandre ou quoi. Donc, par conséquent, on n'est pas censé manger. Donc, il faut évidemment bien se nourrir avant de sortir de la station et de faire une sortie extravéhiculaire. D'ailleurs, dans l'ISS, c'est un peu pareil, j'imagine, parce que c'est un moment long, c'est sportif, ça demande de l'effort. Donc, effectivement, il faut bien manger, il faut bien se nourrir, un peu comme un sportif avant un gros match. Et du coup, si j'ai bien répondu à cette question, la prochaine question que vous avez posée, c'est comment on fait pour renouveler l'air?
Voilà, donc ça c'est une super bonne question et je trouve qu'en fait c'est bien parce que vos questions elles rebondissent les unes sur les autres. Je pense que cette question elle va bien de pair avec la question qui demande à savoir comment on fait pour avoir chaud ou froid. Toutes ces deux questions-là, elles parlent de notre manière de gérer notre atmosphère parce qu'effectivement autour de nous, L'atmosphère est sur Mars pas censée être extrêmement propice à la vie humaine, elle est même très hostile, on ne peut pas vraiment respirer dedans. Et effectivement, du coup, dans la station spatiale internationale, il y a un gros recyclage de l'air, avec, comme pour l'eau, des grosses machines qui filtrent l'air. Dans les prochaines stations martiennes, on peut penser que ce sera exactement la même chose. Nous, parce que c'est très très compliqué quand même d'avoir ces systèmes-là qui sont très très lourds et qui peuvent avoir beaucoup beaucoup de problèmes, notre système de renouvellement de l'air, en fait, c'est juste une ventilation entre guillemets normale comme on a sur Terre, d'ailleurs que je crois qu'on peut entendre parce qu'elle vient de s'allumer derrière nous. On fait comme si il y avait une vraie ventilation, mais effectivement, c'est une des contraintes de la station. La station, elle n'est pas parfaite, et c'est pas une copie absolument conforme à ce qu'on aura sur Mars. Et on fait comme si cette ventilation-là normale, un jour, si on fait une mission vraiment sur Mars, on aura un système équivalent, mais qui marchera en interne, comme dans la Station Spatiale Internationale avec Thomas Pesquet, avec des grosses machines qui recyclent notre air pour nous assurer qu'on bah, on s'étouffe pas et que tout va bien. Du coup, la question suivante que j'aimerais bien poser à Julie, c'est du coup, pour le jour où on ira sur Mars, peut-être pas nous, mais aussi d'autres personnes, combien d'années d'études ça représente pour quelqu'un qui veut faire ce long voyage et faire partie des équipages qui iront vraiment?
Alors, pour être un astronaute, c'est vrai qu'il faut avoir fait plutôt beaucoup d'études. Donc, pour vous donner un exemple, Thomas Pesquet, il a fait une classe préparatoire scientifique, il a fait donc des études d'ingénieur, puis après des études pour devenir pilote. Et ça lui a pris 5-6 ans d'études. Et puis ensuite, il s'est inscrit à l'examen l'examen, c'est plutôt le concours d'entrée, on va dire, pour devenir astronaute. Et les recrutements pour le concours d'astronaute, il est très long, il dure entre 1 et 2 ans. Et ensuite il a entre 2 ou 3 ans, voire plus, d'entraînement en tant qu'astronaute quand il est recruté, avant de partir pour la première fois dans l'espace. Donc c'est assez long. Ça dure une bonne dizaine d'années, du moment où vous commencez à faire vos études supérieures jusqu'au moment où vous pouvez aller sur Mars, aller dans l'espace plus généralement. Pour ce qui est de Mars, la question se pose déjà, et a priori ce serait peut-être des astronautes qui sont assez expérimentés, qui sont déjà partis dans l'espace. Donc voilà, il faudrait être assez vieux, avoir assez d'expérience. Et pour revenir à la question des années d'études, il faut avoir fait en général pas mal d'études, mais ça peut être assez différent. On peut avoir fait des études d'ingénieur, des études de médecine. Il faut nécessairement avoir fait des études scientifiques en fait, mais c'est tout. On peut postuler en venant de n'importe où du monde scientifique.
Voilà, c'est une très très bonne réponse.
Et du coup, j'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce que la question d'après, qui est très très importante, c'est est-ce qu'on a le droit et est-ce qu'on peut communiquer avec nos familles?
Alors voilà, donc du coup, c'est une question super pertinente parce qu'effectivement, on n'a pas accès à tant de ça d'internet ou de données dans la station. On est super limité. Et toutes les données qu'on a, en fait, on s'en sert pour envoyer des choses qui sont utiles à la mission. Donc, on a un système de support, de soutien de la station, donc qui est loin, à qui on doit envoyer des nouvelles de la station, des nouvelles de ce qu'on a fait pour qu'eux, ils s'assurent que tout va bien. Et au final, une fois que tout ça, c'est fait, on n'a pas tant que ça d'internet. On ne peut pas vraiment faire d'appel vidéo ou même d'appel audio à nos familles. Donc, ce qu'on essaye de faire autant que possible, c'est envoyer quelques mails, quelques messages par texte pour nos familles, donc une fois tous les quelques jours ou une fois par semaine. Et dans le même temps, nos familles, elles ont des nouvelles de nous parce que dans la station, on a un journaliste d'équipage et on a des gens qui prennent des photos. Donc, tous les jours, le journaliste écrit un rapport qui décrit ce qui s'est passé dans la journée, comment se passe la vie dans la station. Et on envoie aussi toutes les photos qui ont été prises, ce qui fait que pour nos familles, nos proches, et nos amis, ils savent au moins, même sans avoir de nouvelles directement de nous, un peu ce qu'on a fait de notre journée et où est-ce qu'on est allé. Donc ça, ça leur permet de se tenir au courant.
Et sur Mars, le délai, tu me dis si je me trompe Clément, il est de plus une vingtaine de minutes, 24 minutes pour être exact. Et du coup, en fait, ce qui se passerait, c'est que si un jour un astronaute va sur Mars, qu'il envoie un message à sa famille, ça mettrait 24 minutes pour être reçu, 24 minutes aller, puis 24 minutes retour. Donc une quarantaine de minutes, donc on ne peut pas envoyer des messages comme sur Terre, quoi, c'est clair.
On ne peut même pas avoir d'appel téléphonique en fait, parce que le temps qu'ils reçoivent le halo, il y a 20 minutes qui sont passées, le temps qu'ils le reçoivent, ça fait 40 minutes au total.
Donc sur Mars, la communication c'est beaucoup plus compliqué, mais la communication écrite, elle reste possible.
Donc une autre question qui est elle, super technique, très intéressante, c'est de savoir si on avait déjà des prototypes qui sont prêts de fusée qui est capable d'emmener des gens sur Mars.
Alors, c'est une très très bonne question. Je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre le mieux possible, mais je vais essayer. Alors aujourd'hui, un prototype de fusée prêt pour aller sur Mars, on n'en a pas. Parce que il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Pour vous donner un exemple, le premier exemple, c'est que nos systèmes de propulsion ne sont pas assez puissants. C'est-à-dire, quand je dis puissant, c'est-à-dire qu'il faut savoir que pour créer de la propulsion, il faut du carburant, comme une voiture a besoin d'essence. Le carburant, c'est lourd. Et plus quelque chose est lourd, plus c'est difficile à emmener d'un point A à un point B. Donc aujourd'hui, on n'a pas réussi à créer une fusée qui peut faire un trajet aussi long qu'est la Terre jusqu'à Mars, puis déposer la fusée sur Mars, redécoller, etc. On n'a pas trouvé de moyens assez économiques pour ça. On est sur la bonne voie, en revanche. Mais il y a plein d'autres problèmes. Par exemple, un voyage sur Mars, ça prendrait entre 1 an et 2 ans, 1 an et demi pour se rapprocher le plus. 1 an et demi dans l'espace, ça veut dire que vous n'êtes plus sur Terre, donc il n'y a plus l'atmosphère autour de vous, donc vous êtes plus protégé de ce qu'on appelle les radiations. Donc, par exemple, les radiations, il y a les rayons UV du Soleil que vous devez sans doute connaître. En fait, ces radiations-là, sur Terre, on est hyper protégé par celles-ci, mais dans l'espace, on n'est plus du tout protégé parce qu'on n'a plus de champ magnétique, le champ magnétique de la Terre, et on n'a plus d'atmosphère. Donc, on n'a plus rien pour freiner ou pour renvoyer les rayons. Donc, on est complètement exposé à ces rayons, ce qui est très dangereux. Quand on est trop exposé à ces rayons, ça augmente les risques de cancer, etc. Et pour l'instant, on cherche des solutions, mais on ne trouve pas de solution pour se protéger des rayons quand on est dans l'espace, surtout pour une durée d'un an et demi. Pendant un an et demi, ça devient super dangereux. 6 mois, c'est la période maximale à partir de pour laquelle un être humain il arrive à résister. Donc, il y a plein d'autres problèmes. Par exemple, la gravité martienne, elle est très faible. Du coup, c'est très, très compliqué d'atterrir sur Mars aujourd'hui. Et surtout, c'est encore plus compliqué de redécoller. Voilà, Clément, si tu peux rajouter quelque chose.
Non, mais voilà. Donc, pour synthétiser, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes techniques où on n'est pas encore sûr. On a des idées de réponses, mais on n'a rien de pratique à montrer dont on est sûr que ça pourra marcher. Des propositions de fusées ou de projets de missions vers Mars qui peuvent être faisables, il y en a beaucoup. Le problème, c'est que ce soit pour des décisions faites par des politiques ou juste parce que l'ESA, l'Agence spatiale européenne ou la NASA changent d'avis, on n'a pas encore fixé entièrement un vrai projet qui nous permettrait d'aller sur Mars. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut envoyer plein de petits modules, les assembler ensemble, les envoyer sur Mars. On peut avoir une énorme fusée qui envoie tout d'un coup. On peut préparer le terrain en mettant des missions qui permettent de fournir tout l'équipement nécessaire pour les astronautes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mais malheureusement, en fait, on n'est pas encore entièrement sûr. Il n'y a pas de grosse décision qui a été prise. Actuellement, la NASA, ce qu'elle prépare, c'est des grosses fusées qui au moins permettent d'aller sur la Lune, car ils veulent commencer par revenir sur la Lune avant d'aller sur Mars. Donc, il y a des fusées développées par la NASA, qui s'appelle le SLS. Et il y a aussi une fusée développée par SpaceX, également aux États-Unis, qui s'appelle Starship, qui permettra normalement d'envoyer des énormes masses et donc des énormes missions au moins sur la Lune et peut-être dans le futur sur Mars. Mais pour l'instant, malheureusement, il n'y a rien de conclusif. Et on pense que dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, on va commencer à se rapprocher, à avoir des systèmes qui marchent. Mais pour l'instant, on attend un peu que les choses avancent.
Ok, merci pour cet apport. Alors, question qui te concerne de très près.
Bien sûr.
Quand est-ce que l'équipage il a été mis en place ?
Voilà, donc ça c'est également une très très bonne question parce que la cohésion de l'équipage, le fait qu'on se connaît tous, qu'on a pu travailler ensemble avant la mission, c'est super important pour s'assurer qu'on travaille bien ensemble pendant la mission. Donc on est tous étudiants de la même école d'ingénieurs. Moi, le commandant, je suis quelqu'un qui est déjà parti en mission, donc j'ai déjà été dans un équipage avant. Et du coup, tout l'équipage a été sélectionné il y a 2 ans. Au cours de sélection, on passe un entretien écrit, un entretien oral et où on attribue à chacun les rôles. Donc c'est le cas de Julie et des autres membres d'équipage. Et une fois que cet équipage-là était sélectionné, il fallait choisir donc parmi mon premier équipage à moi qui était la personne avec l'expérience de mission qui serait capable de prendre le rôle de commandant. Et au final, du coup, c'était il y a plus de deux ans qu'on avait l'équipage tel qu'il est actuellement. Malheureusement, pour des raisons logistiques, il y a un de nos membres d'équipage qui n'a pas pu venir jusqu'à Mars, en particulier jusqu'aux États-Unis avec nous. On était supposé être 7 et ça a été 7 pendant, on a été 7 pendant un grand moment. Et malheureusement, l'arrivée sur Mars, ça s'est faite seulement à 6. Mais ça fait quand même 2 ans qu'on a cet équipage qui est mis en place et qu'on travaille ensemble pour toutes nos opérations scientifiques et pour préparer la mission. Et du coup, deux petites dernières questions que vous avez été posées. Du coup, la première, c'est une question très intéressante, beaucoup de curiosité, c'est de savoir pourquoi est-ce que les astronautes, quand ils font des sorties, est-ce qu'ils ont une tenue qui est entièrement blanche?
Alors, c'est tellement une bonne question que je ne suis pas sûre d'avoir la bonne réponse. Je vais essayer de deviner. Je crois que c'est parce que quand un astronaute fait une sortie extravéhiculaire, c'est-à-dire sort d'un module spatial et va donc dans l'espace, dans l'espace, il y a le vide, eh bien, je pense qu'il est exposé directement aux rayons du soleil. Et les rayons du soleil, il faut savoir que c'est ce que je vous disais sur les radiations, ça comporte des rayons qui sont dangereux pour le corps. Un moyen d'éviter une grosse partie d'entre elles, c'est d'être équipé de blanc, parce qu'en fait, la couleur blanche renvoie, les objets qui sont de couleur blanche renvoient tous les rayons du soleil, ou la plupart en tout cas. C'est pour ça que généralement, quand vous portez un t-shirt blanc et qu'il fait très très beau, très très chaud même, vous avez un peu moins chaud que quand vous portez un t-shirt noir. C'est le même effet. Ça renvoie tout, parce que ça renvoie la plupart des rayons du soleil. Alors qu'au contraire, le noir, ça les absorbe tous. Donc, ça donne de la chaleur et quand ça absorbe des mauvais rayons, ça peut faire mal. Donc, je crois que c'est
Oui, je
ça.
pense que c'est ça, effectivement. Les astronautes, quand ils sont en sortie, ils ont un gros sac à dos, effectivement, avec une ventilation, tout un système qui leur permet, encore une fois, d'être à une bonne température et d'aller bien. Et effectivement, cette tenue blanche-là, elle est blanche pour éviter une surchauffe de la combinaison et pour s'assurer que tout va bien.
Et du coup, la dernière question, très importante, peut-il pleuvoir sur Mars?
Voilà, bah c'est une bonne question parce qu'effectivement, sur Mars, il y a une atmosphère, il y a de la météo, il y a du vent. Mais malheureusement, Mars, c'est une planète très très sèche, très très désertique, où il n'y a pas d'eau liquide en fait. Donc il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de neige. Tout ce qu'il y a et qui peut voler dans le ciel, en fait, c'est de la poussière. Il y a beaucoup de tempêtes de sable sur Mars. Les vents, ils peuvent être extrêmement extrêmement rapides. Et au final, on remarque, même avec des télescopes de très loin, que parfois les tempêtes de sable sur Mars, elles sont tellement grosses qu'elles peuvent couvrir une grande partie, un quart, un tiers de la planète quand il y a beaucoup, beaucoup de vent. Heureusement, quand on pense aux futures missions martiennes, l'avantage qu'on a, c'est que vu que l'atmosphère martienne, elle est très, très fine, même s'il y a beaucoup de grosses tempêtes de sable et que le vent va très vite, au final, comme l'atmosphère, elle est beaucoup plus fine, comme si on était en très, très haute altitude sur Terre, il y a moins de particules, en fait, qui se déplacent et du coup, c'est moins dangereux. Donc là où un vent à 70 km/h sur Terre, il vous poussera très fort parce qu'il y a beaucoup beaucoup de molécules d'air. Un vent à 70 km/h sur Mars, il vous fera presque rien parce que l'air est beaucoup plus fin et il y a beaucoup moins de molécules qui vous rentrent dedans. Donc pas de pluie sur Mars, mais beaucoup de sable. Donc voilà.
Bah, voilà, je crois que c'est la fin. Merci beaucoup pour vos questions. C'était super intéressant, même pour moi. Il y avait des questions qui m'ont fait réfléchir. Du coup, je crois qu'on se retrouve.
On devrait se retrouver voilà pour un autre podcast. Pour continuer à faire ces questions-réponses-là.
Du coup, ouais, à
Ouais.
plus, à
À
plus tard.
plus.
Et merci beaucoup encore pour ces questions. Et
Merci.
à bientôt sur Terre.
Voilà. Merci à vous, Lavelanet, et on attend vos prochaines communications. Au revoir.